Alors, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu avant de donner des références. Vous saluerez votre pasteur et vous le remercierez de m'avoir invité. Hein? Voilà. Et puis, on va se faire beaucoup de bien ensemble. Eh bien, déjà, ça a commencé. Je me suis régalé dans les chambres. Hein? On se fait du bien dans la présence de Dieu. Amen. Ça va? Depuis vendredi, ça va? Oui. Elle m'a dit, à dimanche. J'ai dit, non, je ne suis pas là. Elle m'a dit, si, à dimanche, on sera ensemble. Eh oui. Alors, vous voulez donc afficher Proverbe 20, verset 6. Il y a une version, mais moi, j'en ai d'autres. Hein? Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est pas mal. Ah. Ah, ben, c'est la même version. Allez, on va lire ensemble. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je prends la version Taub, je prends la version français courant et la Nouvelle Bible Second. Donc la Taub, il y a beaucoup d'hommes dont on vante la bonté, mais un homme sûr, qui le trouvera? Courant, verset français courant. Beaucoup de gens, non, il change pas, hein, beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? La Nouvelle Bible Second. Beaucoup de gens se proclament fidèles. Un homme sûr, qui le trouvera? Amen. Dans les chants, le premier chant déjà a donné le ton, parce que c'est le thème de la prédication. On va parler de la foi, mais également de la fidélité. Alors la fidélité, c'est une qualité importante qui, malheureusement, a tendance à se perdre de plus en plus aujourd'hui. Eh oui. Être fidèle dans le sens courant, c'est être constant dans son attachement, dans ses relations. Donc, c'est être fidèle, constant. Vous voyez, ça va et ça s'étend dans le temps et ça ne bouge pas, ça ne varie pas. Par exemple, être un ami ou un fidèle camarade. Un fidèle camarade. Est-ce qu'il y a parmi eux de fidèles camarades? Le chien est un animal fidèle. Amen. Être fidèle dans sa vie de couple. Par opposition, être infidèle. Important, hein? Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un à qui on peut se fier. C'est quelqu'un de loyal, de scrupuleux, qui dénote justement un attachement durable. Ouais, ce n'est pas une parole en l'air que l'on oublie après, mais c'est quelque chose qui reste ancré, qui est là, qui ne varie pas, qui ne s'écarte pas. Fidèle à ses promesses. Le mot fidèle, sur le plan biblique, comporte des particularités, je dirais, fort significatives. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons le terme hébreu, emouna, du verbe aman, qui signifie solidement ancré. Être solide, vous voyez, d'où être digne de confiance. Et c'est de ce verbe que découle le mot amen. Vous le dites souvent. On l'a entendu? Amen. Eh oui. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le terme grec « pistis » qui signifie aussi « foi »,« fidélité ». Et les deux idées, eh bien, étant étroitement liées, d'où eh bien, l'adjectif verbal « pistos » qui désigne le croyant. Il est aussi appelé le fidèle. Amen. Donc l'importance de la fidélité dans la pensée biblique, eh bien, elle est soulignée d'abord par la fréquence d'utilisation du mot « pistos ». Dans le Nouveau Testament, on le trouve 66 fois. N'y voyez pas là quelque chose, hein, mais 66 fois. Aussi également, et surtout, je dirais, par l'enseignement du Seigneur. Par exemple, dans les paraboles, il l'utilise souvent, « pistos », s'adressant à l'auditoire qu'il a devant lui, aux hommes qu'il a devant lui en particulier, qu'il a quelque part eh bien, avec lui. Il les appelle donc des pistos, des fidèles. Vous regarderez aussi l'enseignement qu'il donne dans Matthieu 24 et 25, de même également que l'enseignement eh bien, des actes des apôtres, qui appelle les croyants fidèles et les exhorte ni plus ni moins à la fidélité. Si vous êtes fidèle, votre Père sera fidèle. Il vous accordera, il vous bénira. Amen. Vous serez fortifiés. Alors Paul parle de la fidélité dans le fruit de l'esprit, là aussi, également, Galates 5, 22, vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. La douceur, bien sûr, et la tempérance. En tout cas, la fidélité, mais c'est tout d'abord un attribut de Dieu. Amen. Tant sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle. Est-ce que Dieu est un Dieu qui varie? Selon les circonstances, il va s'adapter. Non, il ne serait pas Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Elle est également un attribut de Jésus, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 17, jusqu'à 3, verset 2. Il dit qu'il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. 3 verset 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui est fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse, un exemple, dans toute sa maison. Jésus est fidèle à son Père. Il ne peut pas en être autrement. Amen. Il est de nature et d'essence divine. Il est lui aussi Dieu. Amen. Donc, il ne peut pas faillir. Alors, cet attribut divin, bien sûr que c'est un encouragement, je dirais un stimulant pour nous les croyants, chez qui Dieu cherche également, je dirais, une fidélité réciproque. Vous voyez ? Si Dieu est fidèle, il attend de nous également la fidélité. Ça veut dire quoi? Eh bien, une confiance en lui, une conduite également constante et loyale en toutes circonstances. Renie Dieu? Non. C'est ce qu'ont fait les premiers croyants qui ont dû, pour quelques-uns, passer par des arènes, être dévorés. Qui ont dû passer par le feu, pour quelques-uns. Renie Dieu? Jamais. Ils ont été fidèles. Et aujourd'hui, ils ont une place bien prépondérant dans le ciel. Ils se reposent, mais quand il y aura le temps des récompenses, même s'ils n'ont pas fait ça pour la récompense, mais c'est parce qu'ils aimaient. Ils aimaient le Seigneur. Et puis, ils savaient qu'avec lui, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas quelques jouissances ici-bas. Amen. Alors, la fidélité, bien sûr, qui est le jaillit de la foi. Et dès lors que cette dernière est un engagement de l'homme par rapport à Jésus, eh bien, dans un attachement exclusif, définitif et sans réserve. Amen. J'ai dit oui au Seigneur et je ne vais pas recommencer deux fois. Bien sûr que je vais recommencer tout au long de ma vie, mais pas de la même manière qu'au début lorsque je lui ai dit « Seigneur, je te suis. Je t'aime. J'ai foi en toi. » Amen. Après, ça va se bonifier. Amen. Ça va grandir. Alors, une telle relation ne peut, je dirais, s'exprimer qu'au travers de la fidélité. Et le chrétien véritable, uni à Jésus par la foi, eh bien, il demeure en lui. Il garde sa parole. Amen. Qu'est-ce qu'on a besoin de la parole de Dieu? Croyez pas? Qu'est-ce qu'on a besoin de cette nourriture? Alléluia. Est-ce que vous vous privez souvent de manger? Levez la main ceux qui se privent souvent de manger. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Eh bien, si je ne lis pas la Bible, la parole de Dieu, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est comme si je me privais de manger. Vous nourrissez votre corps? Nourrissez votre âme aussi. C'est important, hein? Amen. Alors, sans être du monde, bien sûr, nous sommes dans le monde. Et nous reconnaissons eh bien, cette mission que Dieu nous a confiée d'être envoyés dans le monde par et pour le Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir les projets de Dieu. D'autres l'ont fait avant nous. Mais dans cette génération dans laquelle nous sommes, Dieu nous a choisis. Vous ne dites pas Amen. Dieu nous a choisis pour le servir, pour l'honorer, pour montrer notre foi en lui, pour lui être fidèle, pour montrer aux hommes et aux femmes qu'il n'y a rien de meilleur que Jésus. Amen. Il n'y a rien de meilleur que le Seigneur. Lui, il ne nous déçoit jamais. Nous ne pouvons le décevoir. malheureusement. Mais lui ne déçoit jamais. Amen. En tant que disciples, si nous sommes fidèles, c'est que nous allons garder la parole de Dieu. Et lui va accomplir justement en nous ce qu'il doit accomplir, ce qui va nous aider eh bien, à travailler pour lui, à accomplir la mission qu'il nous a confiée en fonction de notre appel. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des témoins. Amen. Tout le monde n'est pas appelé eh bien, à savoir se servir d'un instrument ou d'avoir une voix pour chanter. Chanter, oui, nous le pouvons tous. Plus ou moins bien. Mais autant que celui qui nous fait chanter, eh bien, est quelque part reçu un don, une qualité. Amen. Qu'il l'ait perfectionné. Amen. Mais c'est important. Nous servons le Seigneur. Et d'ailleurs, ceux qui servent là, le savent. C'est pas pour eux. Mais c'est pour le Seigneur. C'est pour la communauté. Amen. C'est un service, tout simplement. Alors, le sphère de la fidélité véritable, elle est là. Matthieu 25, verset 21. Hein, nous savons que c'est la parabole des talents. Hein, tout simplement, lorsque le maître revient, parce qu'il est parti, il a confié hein, des biens, des valeurs, celui qui a reçu 5 talents s'approche et il a fait fructifier. Amen, c'est bien. Hein, il a 5 talents, il en a 10. Alors, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Formidable. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur ? Fais-le fructifier. Amen. Fais-le fructifier. C'est-à-dire, mets-le au service de Dieu. Dieu saura l'utiliser. Il t'utilisera par ce moyen. Et puis, tu le serviras. Et il va, quelque part, bonifier les choses. Dans Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus dit que celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Mais celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Vous voyez la nuance. Tu dois être fidèle déjà dans les petites choses. Amen. Dans les petites choses. Après Dieu, s'il le veut, il me confiera de grandes choses. Mais c'est ça, je dois être fidèle déjà dans les petites choses. Et puis après Dieu, eh bien, fera ce qu'il veut. Amen. Alors quand je dis cela, il ne s'agit pas de mépriser ce qui est petit, ce qui est insignifiant. Non, pas du tout. Pas plus que de le faire pour ce qui est important, grand et visible. Parce que si je regarde un petit peu, Dieu est celui qui s'occupe du détail, voyez, du tout petit détail, ce qu'on ne voit pas, qui est infime, insignifiant, mais également il s'intéresse aussi à ce qui est grandiose. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne vous oubliera pas, nullement. Il saura justement vous visiter, vous bénir, vous faire du bien. C'est le psalmiste qui dit, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Donc, il y a de quoi louer le Seigneur. Il y a de quoi le bénir. Il y a de quoi l'adorer. Il y a de quoi se prosterner devant lui. Vous ne croyez pas ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, le Seigneur ? Il t'a sauvé déjà. Amen. Il t'a régénéré. Il a fait de toi une nouvelle créature. Tu n'es pas comme ceux qui se perdent dans ce monde. Tu es différent. Tu es différente. Tu appartiens au royaume de Dieu. Et ça, le monde ne l'a pas. Ça, c'est unique. C'est lorsque nous tournons les regards vers le Seigneur. C'est quand nous nous prosternons devant lui. C'est quand nous le reconnaissons comme celui qui nous a aimés le premier et qui nous a sauvés, qui est allé jusqu'à la croix pour que je sois sauvé, lavé et purifié. Amen. Le monde ne le sait pas. Alors peut-être vous leur en parlez et vous avez un petit sourire en coin là, en disant le pauvre. Mais non, le riche. Parce que vous êtes riche. Amen. Les gens riches d'Istres ce matin, ils sont là. Hein. Ils ne sont pas ailleurs. Hein. Vous comprenez ? C'est vous les plus riches. Les gens les plus heureux à Istres, où ils sont ce matin ? Montrez-le-moi. Ah, moi, je suis fier et je suis heureux d'être chrétien, hein, d'appartenir à Jésus. Alléluia. Alors qu'en disant un petit sourire en coin, pardonne-lui. Hein, pardonne-lui. Parce qu'il ne sait pas. Mais il faudrait qu'il devienne comme toi. Amen. Il faudrait qu'il puisse lui aussi passer de la mort à la vie. Alléluia. Alors si je vais un petit peu plus loin, il est dans la nature humaine et charnelle, bien sûr, de l'homme, de vouloir ne s'attacher, je dirais, qu'à l'apparence des choses. Allez, de rechercher ce qui frappe les regards. Cependant, il faut bien admettre qu'il n'y aurait pas de grandes choses sans une multitude de toutes petites choses. Hein? Pour faire un fleuve, une grande rivière, eh bien, il faut des petites sources qui, eh bien, un jour, vont se réunir en petites rivières et puis qui vont former une grande rivière et un fleuve qui va un jour aller jusqu'à la mer. Amen. Sur les berges desquelles il fait bon vivre, tant qu'il est tranquille. Vous voyez ? Mais c'est ça. Hein ? Donc, il y a une multitude de petites choses. Elles sont là. Ça peut paraître insignifiant. Surtout, ne pas les mépriser. Surtout, justement, eh bien, faire attention à cela. Et dire, tiens, ça, c'est un petit clin d'œil du Seigneur. Ah, c'est pas encore l'ange qui descend là, devant moi, et qui... Non, c'est un petit clin d'œil du Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Et dire, ça, Seigneur, je te bénis. Et je le garde là. Là. Hein, faut pas que ça parte. Et puis après, Dieu vous montre autre chose. Et puis au fur et à mesure, il fait grandir les choses. Amen. Donc, il serait vain et illusoire de prétendre aspirer après des œuvres importantes, si l'on n'a pas fait preuve que l'on est capable, eh bien, d'être fidèle dans ce qui est caché, invisible ou anonyme. Amen. C'est la raison pour laquelle je vais prendre maintenant, eh bien, des exemples de personnages qui ont été fidèles dans des tâches, des attitudes apparemment cachées. Alors, la fidélité dans le sens des responsabilités. Ruth, chapitre 3, verset 18. Naomi dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Boaz s'était acquis, je dirais, une certaine réputation, pas n'importe laquelle, celle d'un homme fidèle, d'un homme de parole. Amen. Ruth, donc, pouvait être certaine que si eh bien, Boaz s'occupait de cette situation, juridiquement parlant, parce que c'est des questions d'héritage, bien sûr, eh bien, et de rachat, eh bien, son rachat, je dirais, le dénouement ne tarderait pas à être connu. Parce que, dans le cas de fidélité, il est également le synonyme de sérieux. Amen. Et Boaz est un homme sérieux. Sérieux en affaires, sérieux devant Dieu, sérieux dans sa fidélité. Et des gens fidèles, eh bien, ils montrent, je dirais, le sérieux dans ce qu'ils font, dans ce qu'il leur est confié. Et cette qualité se voit à des détails, ne serait-ce que comme la ponctualité. À telle heure, je suis là. Et là, à telle heure, même pas avant. Vous voyez ? C'est important. Hein ? L'information donnée, quand des impondérables rendent, je dirais, l'engagement impossible, eh bien, celui qui est fidèle ne va être ni désinvolte, ni négligent, mais au contraire, il va montrer sa fidélité, comme quoi il est sérieux. Il va appeler. Frère, excusez-moi, j'ai un problème. Je ne peux pas être présent. Il le dit. Amen. Donc, s'il ne peut pas assurer son service, sa fonction, son travail, il va veiller à ce que eh bien, ça s'accomplisse par un autre. Est-ce que vous comprenez ? C'est du sérieux. Hein, celui qui est fidèle est quelqu'un sur qui, eh bien, il est possible de compter. Est-ce qu'on peut compter sur toi ? Est-ce qu'on peut compter sur ton sérieux ? Est-ce que Dieu peut compter sur ta fidélité ? Regardez un petit peu. Néhémie, absent de Jérusalem, voilà qu'à son retour, il apprend eh bien, tout le mal fait par Eliashib. Hein, quand les portions devaient être eh bien, données aux Lévites, elles ne l'étaient plus. Hein. Il n'en arrivait plus rien. Les Lévites et les chantres chargés du service ont dû s'enfuir parce qu'il y avait des menaces sur eux, bien sûr. Et Togiba, bien lui, s'était installé dans une chambre dans la maison de Dieu. Alors il arrive et il prend les choses en main. Il va remettre de l'ordre. Il va confier la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et il leur adjoignit Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Amen. C'est lui qui fut chargé de faire la distribution à leurs frères, etc. etc. Voyez un petit peu, il s'en trouve des hommes fidèles, des femmes fidèles. Amen. Ce qu'on appelle les fidèles, Amen. Alors la fidélité également est l'esprit de service. Romains chapitre 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des principes, hein ? Ils sont bien établis, ils sont là. Alors la fidélité dans le service, elle consiste à accomplir la tâche qui nous a été confiée. Et, normalement, avec joie. Quel bonheur de servir le Seigneur. Est-ce que j'ai l'air malheureux ? Non ? Sylvain, il me connaît depuis pas mal de temps. Mais c'est un bonheur que de servir le Seigneur. J'ai servi des maîtres. J'ai travaillé dans la collectivité. Et c'est pas facile. Pas facile, hein ? Même de travailler avec son papa. Puisque j'ai travaillé dans l'entreprise paternelle. Et t'entends, ça... Ça fait des flammes, comme on dit. Ben oui. Mais travailler pour le Seigneur. Il n'y a pas d'injustice. Dans ce monde, il y en a. Et vous serez toujours victime d'injustice ici-bas. Parce que c'est ainsi que vit ce monde. Il te donne sa parole, mais il ne la tient pas. Tandis que le Seigneur, lui, quand il donne sa parole, il la tient. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. Ça, c'est du terrain solide. Amen. Ça, eh bien, écoute, moi, ça me donne de l'assurance. Ça, c'est de Dieu. Amen. Donc, la fidélité, je disais tout à l'heure, que dans le service consiste à accomplir la tâche qui nous a été confiée, et si possible, avec joie. Mais il ne faut pas chercher à en faire plus. Parce que ça pourrait être de l'orgueil ou de la prétention. Non. Ni en faire également moins sous le couvert, par exemple, de fausse humilité. Voyez ? Ce que Dieu m'a confié, je vais le faire avec zèle. Je n'irai pas au-delà. Peut-être qu'il me le confiera après. Mais là, je vais m'arrêter à ce que Dieu m'a demandé. Amen. Et puis peut-être qu'un autre va rentrer dans le travail dans lequel je suis. Vous voyez ? Et ce ne sera plus seul, mais à deux, ou trois, ou quatre, je ne sais pas. En tout cas, la fidélité dans le service est proche, je dirais, de la conscience professionnelle. Est-ce qu'un chrétien doit avoir une conscience professionnelle ? Ben, le Seigneur l'a dit, hein, travaillez pour le Seigneur, pour votre patron comme pour le Seigneur. Hein. C'est ce qu'il dit ou pas ? Ben oui. Hein. Alors Moïse a été animé de cet état d'esprit, hein, cette conscience professionnelle, si je peux le dire ainsi. Hébreux 3:5 nous dit qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Et Jésus, lui, l'a porté en son paroxysme. À Hébreux 3:6 nous dit que Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia! Son exclamation finale, eh bien, a été l'expression suprême. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et c'est là qu'il va baisser la tête et qu'il va rendre l'esprit. Alors, cette sorte de fidélité envers la maison de Dieu est celle justement que Dieu veut trouver en chacun d'entre nous, par rapport ici-bas au corps de Christ, à l'Église que nous sommes. Amen. Nous sommes les membres les uns des autres. Et il nous faut être fidèles. La fidélité, la loyauté envers son Église, eh bien, le sont normalement, pour tout disciple qui assume pleinement son statut de membre, un membre du corps de Christ, qui en a compris les implications. Amen. Et c'est important pour qu'une Église vive en paix, pour qu'une Église puisse eh bien, s'étendre, allonger ses cordages. Et oui, c'est important. Hein. La fidélité envers l'Église ne doit pas être limitée à la seule participation aux réunions, à l'offrande financière, elle est aussi faite d'amour. Les uns envers les autres. Amen. Et je dirais, c'est ce qui va la constituer et qui va permettre qu'il y ait une assistance mutuelle autant que cela pourra se faire. J'aime l'Église. J'aime mon frère. J'aime ma sœur. Amen. je le vois dans les soucis, je me propose de l'aider. Déjà, je vais prier. Amen. Et puis sans l'introspecter, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire, à partager, mais je vais dire, frère, je prie pour toi. Sœur, je prie pour toi. Amen. Et si un jour il veut s'ouvrir, il va s'ouvrir. Mais c'est important de savoir. Parce que celui qui est dans les soucis, dans les difficultés, qui ne peut pas partager parce que c'est quelque chose de personnel, eh bien va recevoir ça comme un encouragement. Amen. Ça, c'est un fidèle. Alléluia. Sur lui, je peux compter. Et la fois d'après, peut-être que justement, avant de se laisser engloutir par quoi que ce soit, elle va venir vers vous pour vous dire, j'ai vraiment des difficultés, tu peux prier pour moi. Vous comprenez? Mais c'est ça, je vais manifester mon amour d'une manière pratique comme cela. Hein. Et puis ça peut aller plus loin. Si la personne se confie, si elle s'ouvre, et si elle a besoin de vous matériellement, eh bien elle saura vous le dire aussi. Hein. Amen. Et là, il va falloir le prouver. Gloire à Dieu. Paul dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Gloire à Dieu. On parle également de la fidélité et l'esprit de dévouement, mais également de sacrifice. Eh oui. 1 Chronique 11, verset 17. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et ne voulut pas boire. Voilà ce que firent ces trois hommes, ou ces trois vaillants hommes. Amen. Le désir de David pourrait ressembler à un caprice. Regardez-le, capricieux. Il lui dit d'aller chercher de l'eau et puis après, il la répand par terre en disant « Ah, ça c'est pour mon Dieu !» Ce n'était pas un caprice. Et vous allez comprendre pourquoi. On peut très bien le comprendre quand on sait tout ce dont la signification de Bethléem. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à Bethléem. Vous savez ce qui s'est passé. Eh oui. Donc Bethléem était chargé déjà à l'époque de quelque chose d'important, d'événements importants. Alors quand on considère également sa portée prophétique, on ne se pose plus de questions. En tout cas, les officiers David, eux, ont fait preuve d'un véritable dévouement fidèle envers David. Amen. J'étais engagé à ses côtés pour le servir. Au péril de leur vie, voilà qu'ils ont traversé les avant-postes des Philistins et ils sont parvenus jusqu'à la citerne dont l'eau était désirée par leur chef. Ils y sont allés. Amen. Au péril de leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est au péril de leur vie. Alors ces hommes ont été animés, je dirais, de l'Esprit de Christ lui-même, qui est venu, nous savons, nous sauver, et il l'a fait au péril de sa vie. Et Jésus a choisi la croix. Amen. Il a choisi le sacrifice expiatoire. Il a livré sa vie en sacrifice pour moi, pour toi. Amen. Il a fait par amour pour nous. Mais il l'a fait d'abord, je dirais, envers son Père, par fidélité. Alléluia. Père, nous devons les sauver. Envoie-moi. Il est venu. Alors ce même esprit de fidélité courageuse et pleine de bravoure se retrouve dans des personnages que Paul va féliciter plus tard. Je prends simplement deux exemples. Philippiens 2:30. C'est pour l'œuvre de Christ que Épaphrodite a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Vous voyez, Paul était absent, ceux qui l'entouraient également étaient absents, et il a fallu qu'Épaphrodite se lève, justement, au péril de sa vie, justement pour servir le Seigneur. Amen. Romains 16:3, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont allés exposer leur vie. Paul était en mauvaise situation. Et il fallait le sauver, il fallait le tirer de là. Et eux n'ont pas eu peur, ils sont sortis de l'ombre, ils sont allés eh bien, exécuter pleinement la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été fidèles en disant « je te suivrai ». Et si Dieu vous demande la même chose, eh bien il faudra dire « oui Seigneur ». Amen. Il faudra dire « oui ». Alors maintenant je vais conclure par bonne chose, c'est la rémunération de la fidélité. C'est important, hein ? On ne le fait pas parce qu'on a les meilleures choses pour moi, hein ? Non, allez, tu me récompenseras, Seigneur. Hein. Il le fera, sans qu'on lui demande. Mais c'est important de voir que si on est fidèle, eh bien, à coup sûr, il y aura une rémunération, il y aura quelque chose. Hein. Tout d'abord, être fidèle à Dieu, ce n'est pas un exploit en soi. Pour se dire, moi, je suis fidèle. Hein. Non, ce n'est pas un exploit. Mais je dirais une juste attitude envers celui qui nous a rachetés, hein, celui qui nous a, eh bien, tiré de la boue du péché, qui nous a eh bien, éloigné de l'enfer, qui nous a mis tout simplement sur le chemin de la vie. Donc c'est une attitude normale. Paul lit dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 2, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Amen. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Là où règne l'amour, la reconnaissance, la fidélité, eh bien, elle va de soi. Et je dis qu'elle doit eh bien, couler de source. Parce que cette vertu de la foi, je dirais, aura toujours une récompense ici-bas. Ne serait-ce eh bien, que celle d'une conscience en paix, mais également encouragée par l'approbation du Saint-Esprit. Tu calmes les tempêtes. Hein, on l'a chanté tout à l'heure. Je suis tranquille parce que tu es là. Mais c'est un petit peu ça. Je vis vraiment ma fidélité dans l'amour. J'aime le Seigneur, j'aime l'Église, j'aime les frères et les sœurs. J'aime l'œuvre de Dieu ici-bas. Je sais où je me destine. C'est à l'éternité. Mais comme je dois le partager, eh bien je le fais avec joie. Il y a l'approbation de Dieu, il y a l'approbation du Saint-Esprit. Je suis en paix. Amen. Je suis droit, honnête et fidèle. Et même si je suis accusé, mon cœur reste en paix. Ça m'est arrivé. Pour vous le dire. C'est là que c'est bon d'être, excusez-moi, nickel. Hein pas nickel chrome, mais d'être fidèle. Parce qu'on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Et à partir de là, la paix est là. Et l'approbation du Saint-Esprit. Un jour, il amène toutes choses en lumière. Hein. Amen. C'est le Proverbe 28, verset 20, qui dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir, ben, il ne restera pas impuni. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Qu'est-ce que vous préférez ? Hein ? La grâce de Dieu ! Ben oui, parce que tout est par grâce. Je ne mérite rien, mais il m'a promis sa grâce. Amen. Alors moi, je veux demeurer fidèle. Amen. Il y a ensuite la rémunération finale et éternelle qu'il ne faudrait surtout pas perdre de vue. Hein? Je reprends ce texte, Apocalypse 2,10, parce que c'est ce qu'il va dire dans cette église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu ne nous a pas promis, je dirais, un monde où tout est rose. Hein? Pas du tout. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc Dieu met un terme. Par contre, il dit, sois fidèle s'il faut jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ton nom est inscrit dans le livre de vie ? Qui peut dire oui ? Levez la main, c'est bien. Regardez l'exemple. Mais oui. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Donc je fais partie des personnes les plus riches de la terre. J'ai trouvé la perle de grand prix. Elle est là dans mon cœur. Amen. J'ai trouvé ce qu'il y a de plus précieux. Il me rend heureux. Amen. Il me rend heureux. Est-ce qu'il te rend heureux aussi ? Ben dis-le. Il me rend heureux. Donc je marche dans le bonheur. Gloire à Dieu. Jusqu'à la fin de mes jours, je sais qu'il est là. Mais moi, je dois tenir. Je dois rester fidèle. Amen. Je dois lui faire confiance. même dans les circonstances les plus difficiles, je dois dire, Seigneur, tu es là. Alors, parce que tu es là, je suis tranquille. Amen. Je suis en paix. Je sais que tu veilles sur moi. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on se lève quelques instants pour bénir le Seigneur? Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est bien de lire en face. Amen. Merci notre Dieu, parce que pour ne pas tourner les regards ailleurs que sur ta personne, sur ton œuvre, sur la personne de Jésus, tu nous as accordé un consolateur, l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation. Seigneur, nous sommes fortifiés intérieurement de réaliser encore ces choses ce matin. Je vais te demander si quelqu'un est dans une difficulté particulière et qu'il est prêt à baisser les bras, Seigneur, fortifie-le ce matin. Et encourage-le à lever les yeux, Seigneur, ne pas rester tout simplement bien avec ses yeux fixés sur la difficulté, mais qu'il puisse tourner les regards vers toi. Qu'il puisse tout simplement, en s'approchant du trône de la grâce, dire « Tu es là, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas peur, je ne redoute rien. Que peut me faire l'ennemi de mon âme si toi tu es là présent ? Alors Seigneur, mon cœur est dans la paix. Je te bénis, je te loue, je t'adore, je te rends grâce. Et je suis heureux, heureux de t'avoir trouvé. Heureux que tu m'aies trouvé, Seigneur, parce que ça vient de toi. Alors à toi la gloire ce matin. Bénis ton peuple, fais du bien, Seigneur, à cette église. Encourage chacun et chacune dans le nom de Jésus et pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.